Chapitre 14. Le trésor de Mordelia. Alix et Zizo, Sabi et Akan, Agnel et Mano se faufilaient dans la nuit. Zizo n'avait pas besoin d'allumer sa torche pour se guider. Il se repérait aisément dans l'obscurité et le laser de sa lampe aurait attiré les gardes impériaux aussi rapidement qu'une ampoule attire les moustiques. Ils passèrent sous les arches de la rue de la Paix.
« C'est une très mauvaise idée !» continuait de protester Akan.
Le géant traînait les pieds, se cognant exagérément au réverbère qu'il croisait. Sabi se taisait, préférant laisser son amoureux bouder, mais Alix, au contraire, s'agaçait.
« Tu en as une meilleure ?»
Ils atteignaient le boulevard des Capucines. Zizo les fit patienter quelques instants avant de traverser à découvert la place de l'Opéra.
« Oui !» affirma Akan. « Nous concentrer sur ces fameux moulins. Sinon, à quoi cela servait de voler cette boussole ?»
Ils coururent pour traverser la grande place, contournant le bâtiment préféré d'Isalis et des singes, et retinrent leur souffle. La ville était toujours aussi silencieuse, personne ne les avait remarqués.
« Le sublimateur est entre les mains de Liu, » répliqua Alix. « Faisons-lui confiance. Les savants sont plus compétents que nous pour trouver ces moulins. Par contre, ils seraient incapables de faire ce que l'on va faire. »«
Ça, je confirme. »
fit Agnel en regardant le ciel étoilé.
« Tu as le vertige, Akan ?»
Le géant soupira. Il était peu crédible que, après avoir vécu 12 ans au sommet du tipi, Akan souffre d'une telle phobie.
« Alors quoi ?»
explosa soudain Sabi.
« Tu as peur de ce qu'on va trouver là-haut, mon Akinou ? Dans le coffre de ton ex ? Mordelia aurait des petits secrets que tu cherches à protéger ?»
Akan ne prit pas la peine de répondre. Il se contenta de crisper les mains sur son beau de sapin.
« Taisez-vous !»
leur intima Zizo.
« On arrive !»
Ils longèrent les hautes façades du boulevard Haussmann. Quelques mètres devant eux, une unique lumière éclairait Paris endormi.
« Comme prévu !» chuchota Zizo. « Elle ne dort pas !»
Mano s'étonna. « Elle travaille encore à 5 heures du matin ?»«
Oui !»
confirma Alix. « Elle reste jour et nuit dans son bureau.
C'est une accro du boulot !»
Zizo poussa une porte et ils pénétrèrent dans l'immense bâtiment. La première chose qu'ils remarquèrent, ce furent les étoiles dans le ciel, à travers la gigantesque verrière. Mano écarquillait les yeux, paraissant n'avoir jamais rien vu de plus beau.
« La coupole de la Banque du Nouveau Monde !»
murmura-t-il.
« J'en ai tellement entendu parler !»«
Eh bien, tu vas avoir le temps de la contempler !»
fit Sabi. Avec agilité, ils grimpèrent l'escalier qui tournoyait autour du dôme de verre. Même si les boutiques de la coupole étaient fermées, ils pouvaient fugitivement admirer les vitrines. Toutes vendaient des produits luxueux, fabriqués par les corporations les plus douées et réservés aux habitants du château. Des parfums raffinés, des bijoux précieux, des étoffes rares, ainsi que toutes sortes d'objets décoratifs en cuir, en corne, en cuivre, en fer forgé, en pierre taillée. Étage après étage, ils s'approchèrent de la seule pièce allumée, avant de s'arrêter devant la porte entrouverte. Zizo reprit son souffle après une brève seconde, puis poussa la porte du bureau.
« Bonjour, Vanille !»
La directrice de la Banque du Nouveau Monde sursauta comme si elle avait vu apparaître des fantômes.
« Qu'est-ce que vous faites ici ?»«
Ce n'est pas très prudent, » poursuivit Zizo, « de veiller dans cette galerie sans aucun garde pour assurer ta sécurité. » Vanille les toisa avec mépris.
« Qui aurait envie de venir se servir sans payer ? Seuls les pauvres ont besoin de voler et personne n'est pauvre au château. »
Les visiteurs de la nuit continuaient de s'avancer dans le bureau. Vanille découvrit tour à tour Agnel, puis Akan. Ils échangèrent un long regard. Vanille avait grandi au tipi, comme eux. Elle était le seul enfant de la tour parvenu à devenir l'égale de ceux du château. Directrice de la Banque du Nouveau Monde, grande argentière, consul décorée des bois d'honneur, l'une des figures les plus importantes du Troisième Empire.
« Que me voulez-vous »
Presque rien, fit Zizo. Juste que tu nous prêtes ta montgolfière le temps d'un court voyage.
Par réflexe, Vanil regarda par la vitre de son bureau. Elle apercevait la silhouette sombre du tipi, mais pas le ballon aux couleurs de la BNM qu'elle faisait gonfler tous les matins à l'hélium pour qu'il s'élève au-dessus des toits de Paris accroché à l'un des pieds de la tour Eiffel.
« C'est ridicule !»
trancha-t-elle.
« La nacelle n'est pas destinée à recevoir des passagers. En prime, ils annoncent des vents de force 10. Il est prévu qu'elle reste au sol par sécurité. »«
Ça pimentera le voyage !» affirma Alix. Vanille comprit qu'elle ne ferait pas changer d'avis ses visiteurs.
« Pourquoi tenez-vous autant à retourner dans le tipi ?»
Agnelle observa les étagères où s'entassaient des piles de dossiers et des pots remplis de stylos.
« Ça ne te manque pas, toi, le vent qui souffle entre les poutres, et Liane pour passer d'un étage à l'autre, la liberté ?»
Vanille haussa les épaules comme si les sensations dont parlait Agnelle appartenaient à une enfance à laquelle elle avait définitivement tourné le dos.
« Et après ?»
répliqua-t-elle.
« Je vous dénoncerai à la garde impériale dès que vous serez sorti. »
« C'est pourquoi Mano va te tenir compagnie. » Le gitan était jusqu'à présent resté à fixer les vitrines à travers la verrière, mais en entendant son prénom, il se retourna et pointa vers la grande argentière le long poignard de pirate qu'il avait emprunté au troisième étage dans la boutique des couteliers. Une heure plus tard, les cinq résistants s'élevaient doucement au-dessus des champs de blé et de maïs plantés dans la vaste plaine sous le tipi. Gonfler la montgolfière en tournant les poignées des bouteilles d'hélium n'avait pris que quelques minutes. Le ballon s'était élevé presque aussitôt, mais Vanille avait raison sur un point. La nacelle, un simple panier de paille, n'était pas assez solide pour qu'il s'y installe. Ils avaient dû tous s'accrocher aux câbles soutenant l'aéronef. Ils s'étaient solidement harnachés avec des ceintures, les pieds dans le vide et les mains accrochées aux cordes. Ils sentirent le vent forcir dès qu'ils dépassèrent les plus hauts toits de la ville. Un souffle glacial et puissant, imperceptible dans les rues de Paris, balayait le ciel. La montgolfière, ballottée par les courants d'air, s'agitait autant qu'un ballon de baudruche pendu au bout d'un fil.
« Nous volons !»
criait Agnelle en riant.
« Nous volons !»
Et il lâchait les cordes, agitant les bras comme des ailes, seulement retenues au câble par la ceinture sanglée autour de sa taille. Tous les autres, au contraire, serraient les cordes de chanvre à s'en cloquer les mains.
« C'est ton amoureux qui a eu cette idée idiote !»
hurlait Sabi tout en avalant à chaque mot une mèche de ses longs cheveux transformés en pieuvre volante. Alix ne répondait pas. Elle plissait les yeux pour éviter que le vent ne l'aveugle. Au loin, bien au-delà de la forêt, le jour commençait à se lever.
« Le spectacle vaut tout de même la peine !»
se défendit Zizo. L'horizon paraissait illuminé par l'explosion d'un volcan et la cime des arbres dévorée par une coulée de lave. Seul Hakan demeurait muet. Sa lourde carrure épousait la courbe du ballon, tel un lézard immobile posé sur la boule d'un lampadaire. Ils atteignaient le quatrième étage du tipi et dépasseraient bientôt sa flèche. Le câble retenant la montgolfière au sol était long de 320 mètres, juste assez pour que le ballon s'élève une dizaine de mètres au-dessus de la tour et qu'aucun habitant du Nouveau Monde ne puisse rater cette gigantesque publicité.
« Dis plutôt que tu voulais revoir ta chambre de bébé !»
continua Sabi en observant les poutres de fer qui se rapprochaient.
« Vous, les petits barbares, on n'aurait jamais dû vous laisser descendre de votre perchoir !»
La montgolfière s'arrêta soudain, sèchement, au-dessus de la flèche du tipi. Le câble était tendu au maximum. Cette fois, le vent cognait le ballon comme un boxeur à un punching ball. Les cinq résistants s'accrochaient tels des tiques sur la tête d'un chat. Agnel commença à détendre le câble de fer qu'il avait enroulé autour de sa poitrine.
« Finalement !»
osa affirmer Zizo, pied en haut et tête en bas.
« Tout se passe beaucoup plus facilement que prévu.
Trop facilement même !»
renchérit Alix.
« Je n'ai aucune confiance en cette ambitieuse de Vanille.
Mano s'occupe d'elle !» « On sera dans le tipi avant que le jour soit levé, personne ne pourra savoir qu'on y a grimpé !»«
Et pour redescendre !»
cria Sabi.
« Même chemin en sens inverse la nuit prochaine !»
Agnel avait fixé le câble d'acier aux cordes de la montgolfière. Il fit tournoyer le grappin à l'autre extrémité du câble, visant l'antenne de la tour. Il lui fallut 3 essais, un pour apprivoiser le vent, un autre pour anticiper les balancements du ballon, avant que le crochet d'acier s'enroule autour de l'antenne.
« À toi de jouer, Akan !»
Le géant, à contre-cœur, desserra de quelques mailles la ceinture qui le plaquait à la toile. Il progressa lentement le long du ballon, corde après corde, et la force de ses mains tendit le câble à l'extrême.
« Et voilà !» triompha Zizo. « Il ne reste plus qu'à jouer aux araignées !»
Les uns après les autres, avec une prudence infinie, ils se rapprochèrent du fil d'acier tendu, détachèrent leur ceinture pour la passer au-dessus du câble, en enroulèrent solidement leurs poignets, puis se laissèrent glisser 10 mètres plus bas. Frigorifiés, décoiffés, tous vêtements flottants, les 5 amis descendirent les quelques marches et se précipitèrent dans la cabine du 4e étage du tipi. Entré le dernier, Zizo referma la porte derrière eux. La salle lui sembla infiniment plus petite que dans son souvenir. Il se rappelait une plateforme immense dominant Paris, alors que le dernier étage de la tour se résumait à une sorte de terrasse à peine assez grande pour y étaler 2 matelas et quelques caisses de rangement. Sabi, tout en essayant désespérément de recoiffer ses cheveux, se colla au torse de son géant.
« Alors c'est ici que tu as dormi toutes ces années avec cette sorcière de Mordelia. C'est intime, cosy, romantique. »
Akan se détacha de Sabi, gêné, et s'exprima presque avec colère.
« On avait moins de 12 ans. On était des gosses. Mordelia était comme ma sœur. »
Pour éviter que l'ambiance ne se tende autant que le câble de la montgolfière, et sentant Agnel absorbé par l'observation des nids d'oiseaux construits entre les poutres de fer, Zizo prit la main d'Alix. Ils se penchèrent ensemble sur un grand coffre de bois posé au milieu des caisses.
« C'est le trésor de Mordelia ?» fit Alix.
« Oui, c'est ici qu'elle rangeait toutes ses affaires. »
Ils soulevèrent le lourd couvercle. Akan était resté à distance, mais Sabi ne put s'empêcher de s'approcher. Zizo crut d'abord que le coffre était vide. Il ne voyait que du noir. Il mit une seconde à comprendre qu'il s'agissait d'habits. Des écharpes de laine, des capes, des robes, des chaussettes, des gants. Tous de la même couleur nuit.
Pas très varié,
commenta Sabi.
La garde-robe de ton ex?
Les vêtements avaient été empilés sans ordre dans le coffre. Un bonnet adapté à une fille de 6 ans, un pull de fillette, une jupe longue de jeune adolescente, des chaussettes de bébé, et des culottes et des soutiens-gorge de dentelle noire finement brodés. Zizo s'empressa d'enfouir les sous-vêtements sous le reste de la pile d'habits. Pas assez vite pourtant.
« Pas très varié, » poursuivit Sabi, « mais plutôt sexy. J'ignorais qu'elle avait de tels talents de brodeuse, ta... petite sœur. »
Akan ne fit aucun commentaire. Il fixait la boule de feu au-dessus de l'horizon, plein est, les yeux dans le vide. Zizo continua de fouiller parmi les vêtements, cherchant toujours la fameuse boîte jaune. Ses doigts s'arrêtèrent sur un paquet de lettres retenu par un ruban noir. Dès qu'il le souleva, le ruban glissa et les lettres s'éparpillèrent. Elles s'envolèrent dans la cabine, mal protégées du vent, mais les mots tracés à la main et les dessins les accompagnant étaient assez gros pour qu'on puisse en deviner le sens sans ambiguïté.
Des lettres d'amour, des poèmes, des cœurs percés de flèches, des larmes noires, des mains enlacées, des rimes torturées, des « Akan pour la vie » en lettres majuscules, des « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » en minuscules.
Sabi attrapa au vol l'une des lettres.
« Elle était amoureuse de toi toutes ces années ?»«
Oui, et je ne l'étais pas. Je ne l'ai jamais été. »
Les mains de Sabi se crispèrent sur une feuille noircie de « Je t'aime ».«
Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?»«
Elle est morte, Sabi. Elle est morte entre mes bras. »
La loligueur hésita à déchirer la feuille, à toutes les déchirer, puis finalement se contenta de la laisser doucement tomber.
Sa main caressa la joue du géant. Je suis désolé, Akan. Je comprends pourquoi tu ne voulais pas revenir ici. Tu pensais que j'allais te faire une de mes crises de jalousie. Elle repoussa tout de même plusieurs feuilles qui voltigeaient comme des pigeons autour d'elle. Le vent était de plus en plus intense. Son souffle hurlait entre les poutres alors que les câbles reliant la montgolfière au sol et au tipi claquaient aussi fort que des fouets.
« Je t'aime, Akan. Moi aussi, je t'en écrirai des poèmes. Moi aussi, je... »«
Je l'ai !» hurla Zizo. Son cri enthousiaste avait couvert le hurlement des bourrasques. Même Agnel, toujours concentré sur les nids, se retourna. Zizo tenait une petite boîte métallique jaune entre les mains. Il l'ouvrit avec précaution et ne parvint pas à masquer sa déception. Elle ne contenait que deux gélules jaunes, deux minuscules pilules, alors que la boîte pouvait en contenir plus d'une centaine. Alix posa elle aussi ses mains sur la boîte.
« Vous croyez que ces pilules sont un antidote aux nuages de Pandorium ? Que ce Silver forestier, enfin, celui qui a élevé Luponera, a survécu plus longtemps que n'importe quel autre adulte au monde parce qu'il en avalait une chaque semaine ?»«
Oui, » confirma Sabi.
« Et en les volant, » ajouta Sabi, « Mordelia l'a condamné. »
Elle ne pouvait pas savoir, fit Akan. Tous fixaient les minuscules gélules telles deux pépites d'or.
Vous pensez qu'elles sont encore bonnes ? Demanda Agnel.
Vous pensez que Mordelia a avalé toutes les autres ?
Enchaîna Alix.
Sabi grimaça.
Vous pensez que c'est ce qui l'a rendu,
Elle décida de se blottir dans les bras de son géant plutôt que de terminer sa phrase. Faute de réponse, Zizo avait déjà refermé la boîte. Il s'avança vers Akan, décidé.
Garde-la. Si jamais Ogénor veut la récupérer, tu seras davantage capable de la défendre.
Le chef du tipi accepta sans discuter. Autour d'eux, le vent soufflait toujours plus fort. Le jour s'était complètement levé. Il pouvait observer la ligne de crête des arbres balayée par les bourrasques, les nuages se déchirer et se raccrocher tel un troupeau de moutons affolés, et le ballon dirigeable secoué comme un prunier par 10 cueilleurs affamés. 300 mètres plus bas, une douzaine de gardes prenaient position entre les quatre pieds de la tour. Alix s'apprêtait à refermer le coffre de Mordelia, mais Zizo retint sa main.
« Attends, il y a autre chose tout au fond. »
Sa main, entre quelques derniers habits noirs, des collants, une tunique, un châle, avait découvert une liasse de feuilles déchirées.
« Oh, encore des poèmes !»
s'agaça Sabi.
« Non, » fit Zizo, troublé.
« Ce sont les pages arrachées d'un cahier. Des pages que j'ai déjà vues. »
Alix venait de comprendre. « Le journal de Pierre Sol ? Mordelia a arraché des pages et les a cachées dans son coffre ?»«
Apparemment, » confirma Zizo. « Je reconnais le quadrillage du papier, la marge, les feuilles. Aucun doute, elles viennent bien du même cahier. » Mais il hésita à poursuivre. Tous demeuraient suspendus à ses lèvres.
Mais ce n'est pas l'écriture de Pierre Sol.
Un énorme vacarme ponctua l'affirmation du garçon. Un claquement effroyable, comme si des poutres de fer avaient rompu. Ils se retournèrent juste à temps pour voir, sous la pression d'un coup de vent encore plus violent, les câbles lâchés. Aussitôt libérée, la montgolfière s'envola. Elle s'éleva dans les airs à une vitesse prodigieuse et, emportée par le vent, s'éloigna de la ville. Le logo de la BNM fut bientôt illisible. Et quelques secondes plus tard, le majestueux ballon ne fut plus qu'une tête d'épingle dans le ciel, puis plus rien.
Oh, « Merde !»
lâcha Zizo. Akan et Alix baissèrent les yeux pour observer les minuscules mais nombreux gardes impériaux postés au pied du tipi.
« On est prisonniers, » commenta Zizo. « Jusqu'à la nuit prochaine. »«
Au moins, »
ajouta Sabi, positive.
« On a de la lecture.